Bonjour à tous et à toutes. Alors pour peu qu'on puisse synthétiser une journée entière marquée par des exposés plus riches les uns que les autres, on pourrait quand même dire que cette journée suggère que la féminisation de la magistrature a lieu, mais de manière asymétrique et limitée. Depuis que les femmes ont eu accès et ont été autorisées à exercer la profession de magistrat, leur progression au sein de cette magistrature se poursuit. Elle est même devenue une réalité depuis un certain temps déjà. Mais elle ne se poursuit pas de manière linéaire, ni dans l'espace, ni dans le temps. Elle n'est pas constante dans le temps. Elle connaît tantôt des moments de lenteur, tantôt de spectaculaire accélération. Cette féminisation, elle n'est pas pareille dans tous les États. Elle est née à des moments différents ici et là, puisque alors qu'en France et en Belgique, les femmes ont pu devenir juges qu'après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, par contre, ce droit leur est acquis dès 1868. Et quant à l'effectivité de cette féminisation, elle n'est pas non plus la même ici et là-bas. Sans d'ailleurs forcément que cette effectivité puisse être corroborée par une plus grande ancienneté de l'accès des femmes à la magistrature. Au contraire, on peut dire que la féminisation de la magistrature se réalise surtout dans les pays de tradition civiliste, comme en Belgique, comme en France, des pays où il n'est pas rare que les femmes soient finalement plus nombreuses que les hommes dans la magistrature, considérées dans sa globalité ou dans certains de ses secteurs. Dans les pays de common law, la féminisation est plus limitée, plus lente. Les femmes y représentent rarement plus de 30% des juges. Et lorsqu'on étudie ces chiffres dans le temps, eh bien, ils indiquent une progression très infime et très lente, comme cela a été particulièrement bien illustré par le graphique présenté hier par Kate Mallison à propos du Royaume-Uni et par les statistiques produites par Arvind Agrawal à propos du Rajasthan ou par Judith Resnick à propos des États-Unis. Et cette féminisation infime et lente, on la retrouve également au sein des juridictions internationales, si l'on excepte toutefois le cas très particulier de la Cour pénale internationale. Enfin, cette féminisation ne se produit pas de manière uniforme au sein de toutes les juridictions. Elle dépend de leurs compétences, de leur rang au sein de la pyramide judiciaire. Les femmes sont plus nombreuses au sein des juridictions dites inférieures. On les retrouve par exemple beaucoup au sein des tribunaux de la jeunesse, comme en France, en Belgique, mais aussi aux États-Unis. On les retrouve beaucoup dans le rôle de procureur, dans le rôle de juge d'instruction, on les retrouve moins au sein des tribunaux de commerce, du moins en Belgique. Cette répartition des femmes en fonction des matières traitées ne se vérifie pas, par contre, au sein des juridictions internationales, qui, à quelques exceptions près, restent très masculines, qu'elles traitent du droit de la mer ou qu'elles traitent du droit du commerce international. Mais ce qu'on peut constater partout, c'est que dès qu'on s'élève dans la fameuse pyramide judiciaire ou dans la hiérarchie de la fonction judiciaire, le nombre des femmes diminue considérablement. Elles sont beaucoup moins nombreuses dans les chambres d'appel et elles tendent à disparaître presque totalement au niveau des juridictions suprêmes. Alors à la question de savoir où sont les femmes, on peut donc répondre grossièrement qu'elles travaillent surtout dans les juridictions dites inférieures, surtout dans les États de tradition civiliste, et qu'en ce qui concerne l'international, elle travaille surtout à La Haye, au sein de la Cour pénale internationale ou du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Alors, ce n'est peut-être pas un hasard que la télévision française diffuse depuis 1993 une série intitulée « Le juge est une femme » ou « Le juge d'instruction est en effet une femme » ou que la télévision belge diffuse depuis quelques semaines une série intitulée « À tort ou à raison » où le juge d'instruction est aussi une femme. Une série dont le scénario, figurez-vous, a été écrit par un professeur de droit constitutionnel de notre université. Et peut-être que ce n'est pas un hasard non plus que les films assez rares qui mettent en scène les juridictions internationales, les juridictions pénales internationales, attribuent le rôle du procureur à une femme. Comme c'est le cas, par exemple, du film Sturm, où le procureur du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie est une femme, ou du cas de Largo Winch 2, où on peut retrouver Sharon Stone dans le rôle de la procureure de la Cour pénale internationale, une Cour pénale internationale un petit peu fantasmée, puisqu'elle s'occupe aussi transactions financières, ce qui n'est pas le cas dans la réalité. Alors, quels sont les facteurs qui expliquent cette féminisation et ses limites ? Anne Boisjol a souligné hier que les femmes sont de plus en plus nombreuses à poursuivre des études de droit, ce qui explique en partie qu'elles soient plus nombreuses également à devenir magistrates. Et en même temps, il est piquant de noter que les études de droit se féminisent aussi parce qu'elles restent assimilées aux lettres auxquelles on encourage encore aujourd'hui plus volontiers les femmes que les hommes. Mais alors, si les femmes sont plus nombreuses aujourd'hui à être diplômées en droit qu'hier, et parfois même plus nombreuses à être diplômées en droit que les hommes, pourquoi diable leur présence dans la magistrature reste-t-elle si limitée ? De nombreux facteurs ont été évoqués hier, et je n'en citerai que quatre dans un ordre qui ne signifie d'ailleurs rien quant à leur pertinence. Les limites de la féminisation s'expliqueraient par les difficultés pour les femmes de correspondre à un modèle de carrière et de fonction qui a pendant longtemps été adopté et pensé uniquement par des hommes pour des hommes, comme l'a suggéré par exemple Anne Boisjol et Michel Pastel pour d'autres professions dites de prestige. Deuxièmement, les limites de la féminisation s'expliqueraient par les difficultés pour les femmes à être choisies par des comités de sélection qui restent souvent majoritairement masculins et qui illustrent parfois, mais pas systématiquement, des phénomènes de cooptation par lesquels on a tendance à désigner des « pareils à nous ». Cela semble être le cas au Royaume-Uni, comme l'a expliqué Kate Mallison hier, mais ce n'est par contre pas le cas de la Cour pénale internationale, où le comité de sélection est très majoritairement composé d'hommes, mais nomme pourtant davantage de femmes. Troisième facteur, les limites de la féminisation s'expliqueraient plus généralement par les difficultés que rencontrent les femmes pour obtenir en fait le même statut que les hommes, pour des raisons d'ordre économique, social, culturel, qui expliquent la discrimination dont elles font l'objet dans tous les domaines professionnels, dans tous les secteurs de la société, comme l'a souligné Arvind Agrawal dans le contexte particulier des violences faites aux femmes en Inde, et comme l'ont rappelé Michel Pastel et Daniel Mulders à propos de la ségrégation professionnelle à laquelle elles sont confrontées. Quatrième et dernier facteur que je voudrais évoquer aujourd'hui avec vous, les limites de cette féminisation de la magistrature s'expliqueraient par le succès très relatif du mouvement ayant pour objet d'inscrire cette question à l'agenda politique, à l'interne ou à l'international, comme le propose Nick Grossman. On a vu à travers différentes citations de juges, Lord Lloyd of Berwick, ou de figures politiques et intellectuelles influentes comme Robert Badinter, que tout le monde n'est pas sensibilisé à cette question, ni convaincu qu'il est important de féminiser la magistrature. Alors ce n'est certainement pas le cas de nos orateurs et de nos oratrices d'hier, qui ont tour à tour trouvé la sous-représentation des femmes dans la magistrature scandaleuse, choquante, injustifiable et déprimante. Mais au fond, pourquoi exactement ? Pourquoi faut-il que le juge soit une femme ? Alors la question peut paraître un peu provocatrice, mais elle mérite, je crois, d'être posée, parce que c'est cette question qui sous-tend toute initiative visant à promouvoir la féminisation de la magistrature, et que ce sont les réponses qui lui sont apportées qui conditionnent la légitimité et partant peut-être le succès de ces initiatives. Et la question, je crois, mérite d'autant plus d'être posée qu'elle n'a pas toujours reçu une réponse affirmative, si aujourd'hui une représentation mixte paraît importante, nécessaire, légitime, eh bien il y a 50 ans, pour le procureur Dellewaede, ce qui était important, nécessaire et légitime, c'était de réserver cette fonction de juge aux hommes. Pourquoi faut-il donc alors que le juge soit une femme ? Alors je vais me contenter d'ouvrir quelques pistes de réflexion à ce sujet et je vais partir de la conviction d'Alison Woodward selon laquelle les normes juridiques peuvent faire la différence et forcer parfois les pratiques à se modifier lorsqu'elles ne se modifient pas de manière spontanée. Et que dit le droit ? À ce sujet. Eh bien, le droit ne dit pas grand-chose, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de lui faire dire quelque chose. Des initiatives législatives ont été menées en Belgique pour veiller à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes au sein de certaines juridictions dans lesquelles les femmes étaient sous-représentées. Deux propositions de loi ont en effet été introduites en vue de garantir par des quotas une présence équilibrée des hommes et des femmes au sein de la Cour constitutionnelle belge, donc une cour qui est chargée de vérifier la constitutionnalité de nos lois. La première proposition a été portée par Sabine de Béthune et Cindy Fransen en 2011. Elles sont membres du parti CD&V, qui est le Parti démocrate chrétien flamand. La seconde proposition a été portée en 2012 par Eva Brems, Muriel Gerkens et Stéphane Van Eyck, membres des partis écologistes. Alors pourquoi est-ce que ces députés estiment qu'il faut que le juge soit une femme ? Eh bien, pour six raisons qui ne disent peut-être pas tout, mais qui constituent un bon point de départ pour notre session de ce matin. Première raison, parce qu'il est indispensable que ces juridictions soient composées de manière équilibrée si l'on veut créer un climat de confiance dans le pouvoir judiciaire. Deuxième raison, parce que le caractère démocratique des institutions, y compris le pouvoir judiciaire, requiert une composition équilibrée dans une perspective de société. Troisième raison, parce que la juridiction qui statue sur la constitutionnalité des lois et contrôle leur conformité aux droits et libertés fondamentaux doit afficher une composition respectueuse de la diversité et d'une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes. Quatrième question, il ne s'agit pas d'une question d'opportunité sociale, mais de l'application de normes juridiques internationales. Cinquième raison, la réduction progressive de la sous-représentation des femmes garantira également aux femmes la nécessaire défense de leurs intérêts. Et dernière raison invoquée dans les travaux préparatoires, une magistrature plus diversifiée sera bénéfique pour la justice. Voilà en tout cas les arguments qui ont été avancés ici en Belgique pour justifier la promotion de la diversité au sein de la magistrature. Est-ce qu'on les retrouve dans d'autres pays, et en particulier dans les pays de common law ? Est-ce qu'on retrouve notamment cet argument fondé sur le climat de confiance que génère la présence des femmes et des hommes au sein des tribunaux qui nous jugent ? Avons-nous d'ailleurs davantage confiance en la justice lorsque nous sommes face à un tribunal mixte ? Nous sentons-nous forcément davantage compris par les personnes du même sexe que nous. C'est en tout cas ce que laissait entendre la caricature que nous proposait hier Johan Poirier. « You wouldn't understand, Your Honor, it's a guy thing ». C'est également ce que suggère le film de Claude Chabrol, « Une affaire de femme », qui a été réalisé en 1988 et dont je voudrais vous livrer un très court extrait. Marie Latour, dans ce film, se retrouve bien seule avec ses deux enfants lorsque son mari est mobilisé. Lorsque sa voisine lui demande de l'aide pour avorter, elle accepte et acquiert ainsi une expertise qui va bientôt lui rapporter suffisamment d'argent, non seulement pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, mais aussi pour s'octroyer quelques loisirs. Elle choisit en même temps d'autoriser une connaissance à se prostituer sous son toit. Et lorsque son mari revient à la maison et qu'il se rend compte qu'en plus Elle commet l'adultère, c'en est trop, il la dénonce à la police et Marie Latour se retrouve devant un tribunal exerçant ses fonctions sous le régime de Vichy.
Ainsi, pendant près de 2 années, vous avez, comme vous dites, rendu service, entre parenthèses, un service que vous faisiez payer de plus en plus cher, un plus de 23, selon le rapport que j'ai sous les yeux, 23 futures maires de votre pays, de notre pays. Et notre pays se serait bien passé de ce genre de service. Et je lis également que, dans le même temps, vous louiez des chambres de votre logement à des femmes légères, à des péripatéticiennes, disons-le, pour leur permettre d'exercer leur industrie. Ne voyez-vous pas là, dans cette attitude, un certain cynisme, hein? Un certain cynisme, une certaine abjection. Ne le voyez-vous pas?
C'est vrai aussi. Ils passent leur guerre le cul dans leur fauteuil, et puis un beau jour, ils en prennent une au hasard. Et puis pas une canée avec sa cuillère en or dans la bouche. Hein. Et il la jette en prison sous prétexte qu'elle a pas donné le bon exemple. Et Mouche et Pierrot, qui sait qu'elle va s'en occuper? Ça, ils y pensent même pas. Chez eux, il y a des bonnes pour s'occuper des gosses. C'est facile de pas faire de saloperie quand t'es riche. Ça fait 4 mois que ça traîne. S'ils veulent me punir, qu'ils se décident. Il y a que des hommes là-dedans. Qu'est-ce que tu veux qu'ils y comprennent, les hommes?
Dors. Dors.
Je peux plus.
Pourquoi faut-il que le juge soit une femme? C'est avec cette question que je vous propose maintenant d'écouter à présent les 3 expertes qui nous ont rejoints. Experte sur ces questions touchant à la place des femmes dans la magistrature, sur le rapport des femmes à la fonction de juger, Ulrike Schulz de la Fernuniversität Hagen, Sally Kinney de la Tulane University aux États-Unis et Françoise Tulkens de l'Université catholique de Louvain, mais qui a surtout assuré des fonctions de juge au sein de la Cour européenne des droits de l'homme et jusqu'à très récemment la fonction de vice-présidente de cette Cour. Quel honneur, mesdames, de pouvoir vous entendre sur ces questions. Merci encore d'être là aujourd'hui avec nous et merci déjà de parler très lentement pour que vos propos soient adéquatement traduits pour la salle.